Bonsoir, comment allez-vous? J'avais une professeure de piano qui me disait « Ce n'est pas la main qui joue, c'est le cœur. Si je vous coupe la main et la lâche sur le clavier à une bonne hauteur et qu'elle tombe sur les bonnes touches, ça ne donnera pas le bon son. » Ça me faisait super peur, cette main sanguinolente survolant toute seule le clavier. Mais elle avait raison. Alors, interdire la main baladeuse ou la fessée, est-ce que ça peut marcher? C'est le cœur qui doit comprendre le mal qu'il fait en disant au cerveau d'envoyer la main. Et cette main, c'est au cœur qu'elle fait mal, beaucoup plus qu'à la peau. Une gifle est moins douloureuse qu'une chute de vélo. Et pourtant, c'est pire, car elle laisse l'enfant démuni, tremblant, mal aimé. Un baiser goulûment volé est finalement moins répugnant que de voir son chien avaler son vomi. Et pourtant, c'est pire, car c'est la négation de soi. Alors une loi pour stopper les mains, oui, c'est un début. Mais peut-être faudrait-il s'occuper du cœur. C'est lui qui est malade, pas la main.
Bonjour, je m'appelle Lia, j'ai 6 ans. J'aimerais bien savoir d'où vient la méchanceté. Merci beaucoup, au revoir.
Tu nous demandes ça, Lilia, avec ta petite voix si mignonne, 6 ans. Tu sais, c'est une question qu'on se pose à encore 10 fois 6 ans, et peut-être 30 fois 6 ans si on est toujours sur cette terre. Vous avez écrit, Denis Marquet, « Nos enfants sont des merveilles », édité chez Nil. Vous êtes philosophe et thérapeute, et donc aussi écrivain. D'où vient la méchanceté en 3-4 minutes, Denis Marquet?
Eh bien, Lilia, c'est une vaste question, effectivement, une question que tout le monde se pose. Et en même temps, je pense qu'on peut lui apporter une réponse relativement simple. De mon point de vue, je dirais que la méchanceté vient toujours de la souffrance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de méchanceté. Mais la souffrance, il y en a toujours. C'est-à-dire que on est frustré plusieurs fois dans la journée. De temps en temps, on voudrait une glace et on peut pas avoir de glace. De temps en temps, il y a un de nos camarades qui nous donne des gifles, qui nous griffe, etc., etc. Ça nous fait souffrir. S'il nous donne une gifle et qu'il nous griffe, ça nous fait souffrir et on voit qu'il y a en face de nous quelqu'un de méchant. Et puis nous, ben on est gentil parce que et on a simplement mal. Mais celui qui est méchant lui-même, c'est parce que quelque part en lui, il souffre. Il souffre pour différentes raisons. Peut-être qu'il sait pas exactement de quoi il souffre. Peut-être que quelqu'un dans sa famille lui a dit quelque chose qui l'a blessé, qui lui a fait mal. Peut-être qu'en le grondant, sa maman l'a grondé un peu trop fort et puis qui lui a dit des choses qui lui ont semblé aussi méchantes. Et peut-être que sa maman s'est mise en colère contre lui de façon un petit peu excessive parce qu'elle-même, elle souffre à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont des souffrances à l'intérieur d'eux et quand ils refusent cette souffrance et qu'ils essaient de se soulager, souvent ils se soulagent sur les autres. Et c'est ça la méchanceté, c'est se soulager sur autrui d'une souffrance qu'on porte en soi. Alors évidemment, pour que la méchanceté diminue et peut-être disparaisse du monde, eh bien, il faudrait que tout le monde accepte d'avoir mal un moment et de laisser partir la souffrance sans se soulager sur les autres. Mais c'est un vaste programme et quand on essaye de le faire, on s'aperçoit que c'est pas si facile.
La souffrance est une patate chaude, c'est-à-dire qu'on ne la crée pas, on la reçoit et on la passe. Oui. Maintenant, il faut savoir, et c'est votre métier puisque vous êtes thérapeute, comment s'en débarrasser.
Alors la souffrance, quand on se soulage d'elle en la passant comme une patate chaude, on la fait pas disparaître de soi, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'une souffrance, quand je me soulage sur les autres par exemple, en tapant sur quelqu'un, ça me soulage un moment, mais ça n'a pas fait disparaître la souffrance dont je souffre.
Elle revient
pas
à la patate.
Et elle va revenir. Seulement, le problème, c'est que j'ai créé la souffrance chez un autre alors que je ne l'ai pas fait disparaître chez moi. Donc mécaniquement, la quantité de souffrance dans l'humanité a augmenté. C'est ça le problème. C'est là où la thérapie est importante. Dans la thérapie, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller voir ces souffrances, de rentrer dedans, de les laisser venir et donc de les laisser partir. Parce que dès que je refuse une souffrance, c'est pour qu'elle ne vienne pas. Mais si je la refuse, c'est qu'elle est déjà là. Donc, je l'empêche pas de venir, mais je l'empêche de partir.
Oui, j'ai dit patate chaude, j'aurais pu dire le sparadrap du capitaine Haddock.
Exactement, oui.
Il faut s'en débarrasser sans la refiler à quelqu'un d'autre.
Il faut en guérir, et pour en guérir, il faut accepter pendant un moment de pas s'en soulager, et surtout pas s'en soulager sur les autres, puisque se soulager sur l'autre, c'est ça la méchanceté.
Et ça soulage pas.
Ça guérit pas, ça soulage un moment. Si ça marchait pas du tout, on le ferait pas.
C'est
ça
juste.
Soulage un moment, mais ça ne guérit pas.
Vous pouvez réécouter cette question et puis également trouver l'actualité littéraire de Denis Marquet sur le site des Petits Bateaux par franceinter.fr. Ce soir, nous allons parler du mot qui veut dire le plus de choses, des animaux qui ne dorment quasiment pas et de la honte que l'on peut avoir à montrer ses fesses grâce à des questions qui ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 6 ans et je voudrais savoir si les pommes sont exotiques dans les autres pays. Merci, au revoir.
Pas facile à dire, Sylvie Brunel. Les pommes sont-elles exotiques dans d'autres pays ?
Alors la pomme, c'est le fruit de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on en consomme dans le monde entier. 80 millions de tonnes de pommes sont consommées dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que quand on appartient aux classes moyennes...
Par combien de temps ? 80 millions ?
Par an. Et ça veut dire que quand on appartient aux classes moyennes, on se met à manger des pommes. Ce n'est pas l'aliment de survie, comme les céréales, c'est l'aliment de la vie. L'aliment qui montre qu'on fait attention à sa santé, à sa minceur, que l'on veut être en forme. En même temps, la pomme, ce n'est que le fruit du monde tempéré. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pommes dans le monde tropical. Les pommes ne supportent pas la chaleur tropicale. Alors, la pomme, c'est le troisième fruit consommé au monde, mais le premier en Europe. Et si toutes les pommes originellement viennent d'Asie, elles se sont diffusées dans le monde entier par la ceinture tempérée du globe. Et aujourd'hui, on cultive des pommes au Chili, en Chine, la moitié de la récolte mondiale, en France bien sûr, qui est un des très grands producteurs de pommes, en Italie, aux États-Unis, en Australie. En Australie, d'où vient cette pomme si belle, la pomme rose qu'on appelle la Pink Lady. Donc vous voyez, la pomme est exotique pour ceux qui ne vivent pas dans le monde tempéré, mais comme on la trouve aujourd'hui sur tous les marchés du monde, c'est un fruit qui est devenu un fruit habituel.
Quand vous dites Sylvie Brunel, c'est le troisième fruit consommé dans le monde, vous savez quels sont les deux premiers ?
Bien sûr, ce sont les oranges et les bananes.
Et pas les Scooby-Doo. Sylvie Brunel est géographe économiste, écrivain, elle a écrit entre autres « Croquer la pomme » édité chez Lattès.
Je suis la pluie de mercure sur ta peau. Je suis ce canoë qui sur ton dos s'étire et se tord tout l'après-midi de manière complexe. Ton corps tressaille, contorsion cosmique et subtil réflexe. Sortilèges exquis dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Je suis ton totem, ton monstre sacré. Je suis ta tribu, l'agneau sacrifié. La jungle brise de prières étranges, mélodies complexes, provoque des ondulations cosmiques qui laissent perplexes. Sortilèges exquis dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Ce soir tous les anges sont voodoo, voodoo. L'astre mauve ne pique les yeux. J'épouse toutes tes soubresauts périlleux. Jusqu'aux cieux. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex.
Si vous jouez au Scrabble et que vous avez plein de hauts, vous pouvez essayer le titre de cette chanson d'Étienne Dao. Vo-o-do-o, vo-o-do-o.
Les petits bateaux sur France Inter.
Georges Vigarello, s'il vous en reste un de haut, est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et est spécialiste de l'histoire, de l'hygiène, de la santé et des pratiques corporelles.
Bonjour, je m'appelle Luna et j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi on a honte de montrer ses fesses. Merci de me répondre.
Luna, comme ma grand-mère, il n'y en a pas beaucoup des Luna. Pourquoi est-ce qu'on a honte de montrer ses fesses, Georges Vigarello ?
Écoutez, je crois tout simplement parce que les fesses renvoient à une zone du corps qui est relativement ostracisée. C'est une zone de sphincter, c'est ce qu'on pourrait appeler une zone du sale. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les fesses ne se montrent pas. Mais cette question, qui semble simple, est en fait plus complexe. Parce que si on prend l'histoire du vêtement, par exemple, on voit bien que le vêtement, pendant très longtemps, il a très fortement masqué la zone du bas. La robe en est un exemple. La robe, elle tombe en plis immenses vers le bas du corps et elle masque totalement les hanches et les fesses. Mais on voit qu'aujourd'hui, la robe, elle sert davantage les parties du corps. Donc, ces parties ne sont pas montrées au sens où elles ne sont pas dénudées, mais elles sont montrées au sens où leur galbe apparaît. Et là, à ce moment-là, on voit bien que l'habit qui travestissait le corps, qui le trahissait dans une certaine mesure, aujourd'hui, au contraire, tend à le suivre. Et il donne plus de liberté, d'une part, à ce corps, qui est plus mobile et plus disponible. Et en même temps, il laisse apparaître des parties qui peuvent avoir une sorte de, je dirais, de référence érotique. Ce que il était complètement interdit auparavant. Donc il y a un double progrès. Un progrès entre guillemets, je ne sais pas si c'est un progrès. En tout cas, une double évolution. Première évolution, l'habit rend plus disponible le corps. Deuxième évolution, l'habit peut être plus suggestif sensuellement, si je peux dire.
Ah, ça c'est intéressant, effectivement. Même oui, comme vous dites, et même le met en valeur.
Mais le met en valeur. Les jeans, par exemple, sont des exemples remarquables.
On voit bien les fesses, oui.
Ben oui.
Georges Vigarello a écrit « La robe, une histoire culturelle », édité au Seuil. À propos des choses qui sont habituellement cachées, mais qui peuvent être jolies, on a retrouvé le nom du modèle qui a servi pour le tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. La jeune femme s'appelait Constance. Elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça, en 1908. C'était une fille de fille-mère, comme on disait à l'époque. Elle n'avait pas de papa, elle n'avait pas d'argent. Elle travaillait à l'opéra dès 14 ans. Ça ne nourrissait pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Donc elle a vécu de la galanterie des hommes, même si elle préférait les femmes. Et finalement, elle a bien vécu parce qu'elle était assez riche. Elle avait un appartement à Paris, une maison à Cabourg, ce qui est pas mal pour une femme seule quand même. Et à la fin de sa vie, elle a beaucoup aidé les femmes qui étaient dans le besoin. Alors, c'est pas une preuve, mais c'est une supposition, cette tête sur ce tableau.
Je m'appelle Anselme, j'ai 16 ans, et je souhaiterais savoir s'il existe des animaux qui ne dorment jamais. Merci, au revoir.
Bonsoir Anselme, tu t'en doutes. Nous proposons ta question à un vétérinaire, le vétérinaire en chef de la ménagerie du zoo du Jardin des Plantes, auteur de La Sagesse Animale, édité chez Stock. Pouvez-vous répondre à Anselme Norinchai ?
Bonsoir Anselme, merci pour la question. Donc, il faut savoir que le sommeil est un état naturel, un état spontané qui fait partie de nos propres fonctions biologiques. Donc, de fait, il est obligatoire. Donc, la réponse est non. Les animaux dorment, mais chaque espèce animale présente des stratégies, des modes de sommeil qui leur sont propres en fonction donc de leur espèce et surtout en fonction de leurs conditions de vie. Comment ? Alors, par exemple, une étude a été publiée sur les mammifères et notamment sur les éléphants qui montre que les éléphants ne dorment que 2 heures par jour. Simplement 2 heures par jour. Et c'est impressionnant parce que comme on sait que le sommeil joue beaucoup dans la faculté de compréhension, d'intégration des informations, la mémoire de l'éléphant est légendaire et pourtant, il ne dort que 2 heures par jour. Et ça, on pense que c'est surtout dû à une pression importante de l'environnement, prédation, perte de l'habitat, agression interspécifique, donc notamment avec l'homme, et on a montré qu'il ne dormait que 2 heures par jour.
Donc ce serait une adaptation ?
Alors, très souvent, ce sont une adaptation. On le peut voir aussi sur les dauphins. On penserait qu'ils ne dorment jamais, mais en fait, ils dorment. Ils dorment d'un seul œil, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, leur cerveau, vous savez que dans le cerveau, vous avez 2 hémisphères.
Oui.
Eh bien, les dauphins ne dorment que d'un seul cerveau. Et ils alternent comme ça, un cerveau à un autre. Donc du coup, ils ont toujours un œil ouvert et l'autre fermé pour dormir. Et ça, c'est totalement une adaptation à leur environnement, puisqu'ils doivent nager. Ils doivent respirer, puisque ce sont des mammifères, donc ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Ils doivent remonter pour respirer. Ils doivent lutter contre les courants. Donc, ils doivent toujours être en nage et repérer des prédateurs potentiels. Du coup, ils dorment un œil sur deux, mais ils dorment. Pourquoi ils dorment? C'est parce que le cerveau qui dort réduit sa fréquence, son activité, et c'est pour ça qu'on parle de sommeil. Alors, vous pouvez me dire aussi, mais les fourmis et les abeilles, ils dorment? Oui, ils dorment aussi. On a repéré, en fait, des baisses de fréquence et d'activité cérébrale, même sur des fourmis, même sur des abeilles. Donc, du coup, le sommeil est vraiment une fonction biologique qui est indispensable. Après, vous avez de l'autre côté, des animaux qui dorment beaucoup. Par exemple, le koala, lui, il dort 22 heures par jour.
Tous les gens qui ont des chats s'étonnent de les voir dormir beaucoup.
Alors, les chats dorment beaucoup, ils dorment 16 heures par jour.
Ah, pas mal.
Pas mal, ouais. Alors que, à peu près comme un bébé humain qui a besoin de dormir 16 heures par jour. Le chien peut dormir 12, 13, 13 heures par jour. Le furet dort tout le temps. Et ce sont des adaptations, justement, à son mode de vie ancestral. Le chat qui provient donc des chats sauvages, qui était un prédateur. Le prédateur n'a pas besoin d'être éveillé tout le temps. Il a besoin d'être éveillé tout de suite pour la chasse. Et ensuite, il se repose parce que, a priori, il n'a pas de prédateur au-dessus de lui.
Je ne sais pas si vous le savez, nourrir un chat est comme ça, mais je vous pose la question quand même. Beaucoup d'enfants nous demandent si c'est vrai que le cheval dort debout.
Exactement. Le cheval et la girafe dorment très peu également. Le cheval il n'est pas loin de l'éléphant. Il peut dormir 3 heures, 3, 4 heures, même 2 heures parfois. Et la girafe également. Donc, elle n'a même pas besoin d'être couchée pour atteindre ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Les ongulés, ils ont des positions justement au niveau des pattes qui leur permettent d'être debout sans effort. Alors attention, dormir n'est pas forcément s'allonger et puis ronfler. Dormir, c'est permettre au cerveau de justement atteindre cet état d'inactivité nécessaire pour se régénérer. Donc on peut très bien avoir des phases très très rapides de sommeil, genre 1 ou 2 minutes, et ça c'est un sommeil.
Merci Noreen Chaille. C'est la première fois que Noreen Chaille vient au Petit Bateau. Alors que préféreriez-vous, vous ? Être un koala qui dort 22 heures par jour, on a un peu l'impression qu'on passe à côté de sa vie, ou un éléphant qui dort 2 heures par jour.
Thank you.
dansant et aérien. Cette chanson de Nena, les Allemands, première langue, 99 Luftballons, qui sont des ballons. Oui, écoute, nicht traduction, Eliane, pour le 99. De toute façon, c'est écrit 2-9, alors. C'est lisible dans toutes les langues. Donc, des ballons qui s'envolent dans le ciel.
Bonjour, je m'appelle Capucine, j'ai 7 ans, et je voudrais savoir quel est le mot qui veut dire le plus de choses. Au revoir, et merci.
Bonsoir Capucine, tu peux dire merci, d'habitude on dit il n'y a pas de quoi. Et c'est moi vrai. Je dis ici il y a de quoi parce qu'elle est drôlement difficile cette question. Elle est tombée sur vous Muriel Gilbert, auteur du livre « Au bonheur des fautes » édité à la librairie Vuibert. Quel est le mot qui veut dire le plus de choses, demande Capucine, rien que ça.
Alors c'est vrai Capucine, il y a des mots qui veulent dire plusieurs choses différentes. Alors si on s'en tient au son des mots, sans parler pour le moment de la façon dont ils s'écrivent, eh ben, le mot qui veut dire le plus de choses en français, c'est le mot « vert ». On appelle ça des homophones. Le mot compliqué pour dire ça, hein. C'est des mots qui se prononcent pareil. En plus de « vert », V-E-R, le ver de terre, il y a aussi le ver de la poésie, V-E-R-S. Et puis il y en a un autre qui s'écrit V-E-R-S et qui veut dire autre chose, c'est le ver de la direction, je vais vers l'école. Et puis, il y a celui de la matière transparente, là, qui se brise si on fait pas attention, V-E-2-R-E. Et puis le récipient qui est construit dans cette même matière, le verre dans lequel on boit, ça c'est encore un autre mot. Et puis encore, il y a la couleur, V-E-R-T,
ah oui, bien sûr,
qui veut dire donc la couleur, mais qui veut aussi dire, au niveau politique, là, les écologistes, on les appelle aussi des verts.
Et quand quelque chose n'est pas mûr, ou un vin est un petit peu piquant.
C'est vrai, on peut dire il est un peu vert aussi. Oui. Alors là, il y en a, voilà. Donc ça, c'est vraiment le mot qui, en français, a le plus d'homophones, on va dire. Et puis, le plus rare, il y en a quand même qui est plus rare, et qui est peut-être un peu moins connu, mais on le trouve dans les contes de fées, certaines fois. C'est V-A-I-R, la pantoufle de verre de Cendrillon. Et ce ver-là, V-A-I-R, c'est une fourrure d'écureuil gris. Donc, je ne sais pas, on faisait des pantoufles en fourrure d'écureuil gris à l'époque de Cendrillon.
Certains disent que c'est une erreur de traduction, mais
exactement.
Peu.
Ah oui. Là, ce qui est rigolo, c'est que les différents auteurs se bagarrent. Il y en a qui disent non, c'est V-E-2-R-E.
C'est-à-dire, elle est vraiment en vert, mais ça doit être très inconfortable.
Exactement. Mais c'était quand même la version de Charles Perrault, d'ailleurs. Hein, il l'écrivait V-E-2-R-E. Et puis, il y en a d'autres qui disent pas du tout. Et je crois que le premier qui a dit que c'était pas du tout, c'était Honoré de Balzac. Il a dit que c'était V-A-I-R. Bon, j'en sais rien, moi. Alors, les mots qui veulent dire plusieurs choses et qui s'écrivent de la même façon, j'en ai trouvé plusieurs, je ne vais pas vous les dire tous. Mais par exemple, opéra. Alors, opéra, ça peut être une œuvre d'art musical, hein, un opéra. Et puis, ça peut être le lieu où on va écouter cette œuvre d'art musical. On va à l'opéra. Et puis, c'est aussi un délicieux gâteau, là, au café, au chocolat. Un petit peu riche quand même, mais délicieux.
À peine.
Il y en a un autre que j'aime bien, c'est le rouge. Rouge, ça veut dire aussi plusieurs choses. Donc, il y a la couleur, comme on parlait du vert tout à l'heure. Mais il y a aussi toujours de la politique. Un communiste ou quelqu'un de gauche, on peut appeler ça un rouge dans certains langages. Du maquillage pour les lèvres ou bien pour les joues, c'est du rouge. Et puis, il y en a un que moi j'aime bien, mais c'est pas trop pour les enfants, c'est du vin.
Ah oui ?
Un petit verre de rouge. Voilà.
Ah oui, un petit rouge.
Voilà. Et puis alors, pour finir, il y a des mots pas croyables, je trouve, qui veulent même dire une chose et son contraire, avec le même mot, qui s'écrit de la même façon et qui se prononce pareil. Et alors là, vraiment, c'est des pièges du français. Par exemple, il y a l'hôte, qui peut désigner à la fois l'invité et celui qui invite. C'est mon hôte. Ben, on ne peut pas savoir si c'est l'invité ou celui qui invite.
C'est vrai.
L'amateur, ça peut être quelqu'un qui débute, ou bien ça peut être un connaisseur. C'est un amateur.
Qui aime.
Un amateur d'art, c'est pas quelqu'un qui n'y connaît rien. Et puis, et ben finalement, il y a aussi celui qui loue un appartement. Ça peut être le propriétaire ou le locataire.
Ah oui, le verbe louer va dans les deux sens.
Exactement.
Eh ben, voilà une bonne soirée qui s'annonce. Un petit verre de rouge, un opéra au chocolat, bien craquant sur le dessus. Vous trouverez l'actualité de Muriel Gilbert sur le site des Petits Bateaux. Émission à réécouter sur franceinter.fr. Anne-Laure Cochet, Noël Bréa, Méliane Girard, Marjorie Devoucoué, notre Jean-Baptiste Audibert. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessou pour la tuile, mon petit loup.